Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour ce nouveau rendez-vous des fractions. C'est un cycle de rencontres littéraires qui accompagne tout au long de l'année notre festival de littérature contemporaine et fractions, dont la prochaine édition aura lieu du 12 au 16 février dans différents lieux partenaires que nous remercions au passage chaleureusement, puisque comme vous le savez, le Centre Pompidou commence à fermer étape par étape, étage par étage. Et voilà, nous nous retrouvons dans cette configuration probablement la dernière fois, puisque la BPI même ferme dans un mois déjà. Et en attendant, nous avons la joie d'accueillir Philippe Genada, qui va nous parler de son dernier livre, qui va discuter avec Véronique Blanchard, qui est historienne et aussi un de ses personnages. La lecture des extraits sera assurée par Pierre Beau. Et Raphaël Léris a orchestré toute cette rencontre et va la modérer. Je la remercie chaleureusement également. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci beaucoup, Monica. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette rencontre où, en effet, on va parler de la désinvolture. Est une bien belle chose et de manière générale, plus générale de la manière dont ont pu être traités les mineurs, puisque c'est votre travail, enfin c'est l'un de vos sujets de travaux, Véronique Blanchard, et c'est là-dessus que vous êtes rencontrée avec Philippe Genada. Votre livre Vagabonde voleuse vicieuse, qui a été publié en 2019 chez Françoise Bourin, qui a adapté votre thèse à, je cite, retourner Philippe Genada. C'est ce qu'il écrit dans La désinvolture est une bien belle chose, où donc vous êtes cité à plusieurs reprises comme source, et à la fin, vous faites une apparition fracassante. Mais donc, pour ceux qui n'auraient pas toutes les données en tête, alors sur la désinvolture, pour résumer quelques petits mots liminaires, donc c'est un livre qui place en son cœur un bar du quartier latin façon années 50 chez Moineau, où le photographe Ed van der Elsken a pris des photos réunissant de très jeunes gens qui y passaient leur journée à boire, à rêver, à s'aimer. C'était des enfants de la guerre, beaucoup, leurs parents avaient collaboré, d'autres avaient été exterminés, et Philippe Genada tente de retracer le destin des membres de la bande, et plus précisément de comprendre la mort de Jacqueline Harispe, dite Jackie, qui est morte défenestrée, dite Kaki, pardon, qui est morte défenestrée d'un hôtel en novembre 1953, à l'âge de 20 ans. Elle avait inspiré à Patrick Modiano dans Le Café de la Jeunesse Perdue, qui est paru chez Gallimard en 2007, et elle apparaissait brièvement dans votre avant-dernier livre, qui était donc Au printemps des monstres, qui est paru chez Mélie Barreau en 2021. Et donc, cette entreprise, comme tous vos livres depuis, disons, la SERP, nécessite un intense surtage dans les archives, cher Philippe. Et pour ce travail, voilà, vous avez pu vous appuyer sur le travail de celui de Véronique Blanchard, et sur ce livre tiré de sa thèse, qui retrace le parcours d'adolescente dite déviante dans les années d'après-guerre. Et c'est un livre qui travaille sur la construction sociale de la déviance féminine et des réponses genrées qui sont proposées par la société à la délinquance, si je résume un peu brièvement. Vous avez probablement croisé en chemin certaines des Moineaux, parce que toutes les jeunes filles de la bande, sont passées par un centre de redressement dont il va pas mal être question. Notre conversation va donc être jalonnée par les lectures du comédien Pierre Beau de documents d'archives proposés par Véronique Blanchard et d'extraits de La désinvolture est une bien belle chose. Et pour commencer, nous allons commencer par un premier extrait de La désinvolture, très court. Et pendant que Pierre va lire, on va projeter, si la régie veut bien me donner la main, les images dont il est question dans le texte en question. Et c'est, alors pour le dire très brièvement, ça évoque un moment en avril 1950 où Kaki a été arrêtée alors qu'elle faisait elle avait fugué. Et elle est arrêtée en même temps que ses amis Liliane et Nicole pour vol et recel après une surprise partie. Et sans vouloir rien divulgâcher, cette arrestation pour des faits mineurs aura des conséquences désastreuses sur la vie de Kaki. Donc là, c'est les photos anthropométriques dont Pierre Beau va nous parler.
J'ai les photos anthropométriques prises ce soir-là. Il ne reste curieusement que celles des filles. Une bande de petites voyoutes, les cheveux plutôt courts pour des filles de l'époque, la bouche bien fermée, froide, du défi et de la dureté dans le regard, ou de la résignation déjà. Trois photos chacune, face, profil, trois quarts. Nicole est impressionnante, elle fait peur. Très chef de gang, avec qui faut pas rigoler. Même les flics, je suis sûr, devaient se sentir un peu mal à l'aise. Mais Jacqueline, j'ai failli tomber de ma chaise en découvrant ces trois photos. C'est un enfant. Un, car elle a encore un visage androgyne, des traits encore peu dessinés, mal dégrossis, la mâchoire arrondie, pas de coupe de cheveux, juste comme il pousse, à peine une vague raie sur le côté droit. De face, si on la fixe plus de 5 secondes, on peut la prendre pour un bel adolescent aux cheveux un peu trop longs pour l'époque. Mais ses yeux, surtout, elle regarde droit dans l'objectif. Je la regarde de face, longtemps, je me détourne et j'y reviens sans arrêt, longtemps. Comme si j'espérais découvrir quelque chose derrière ses yeux, au-delà de ses yeux. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je vois. Pas de colère, c'est sûr. Pas de peur, c'est sûr. Mais entre une puissante certitude calme et inébranlable, certitude de quoi ? Que tout ira bien, que tout est foutu, et une immense tristesse irrémédiable, impossible de choisir, de savoir. Je peux la regarder 2 heures, je ne sais pas. Cette photo de face d'une toute jeune fille est insondable et renversante.
Attendez, alors, pardon. Oui, donc juste, j'introduis l'extrait suivant qui, lui, vient des archives choisies par Véronique Blanchard, qui viennent de Chevilly-la-Rue, donc des textes écrits par une certaine Michel en 1955.
Archives de Chevilly-la-Rue, faites votre portrait, Michel, 1955. Je suis assez forte, mes yeux sont verts et gris-bleus. J'ai un tout petit nez à la parisienne. J'ai une belle bouche bien faite. Mes jambes sont fortes. Quand il fait froid, elles deviennent toutes rouges parce que j'ai une mauvaise circulation du sang. Mon caractère est très bon. Je suis méchante lorsqu'on est méchant avec moi. Je suis très susceptible de cœur. Lorsqu'on me dit des choses très désagréables, je pleure. J'aime les bonnes choses et belles choses. Mes cheveux sont châtains foncés. Archives de Chevilly-la-Rue, quel est le métier que vous voudriez faire et celui que vous ne voudriez pas faire ? Toujours Michel, 1955. Le métier que j'aimerais faire serait d'être violoniste. Parce que j'ai toujours aimé le violon. J'aime beaucoup l'art et que c'est beau. Depuis toute petite, je rêve du violon. Le métier que je n'aime pas, c'est d'être sténodactylo. Il faut toujours taper toute la journée. C'est trop fatigant. Ensuite, ça use les doigts. Surtout dans un bureau. Il y a beaucoup de papier.
Alors, on va peut-être commencer par parler de ce centre de Chevilly-la-Rue, dont Philippe, vous écrivez qu'il regroupe toutes les indociles de la région parisienne. Mais peut-être que Véronique, vous voulez bien commencer par nous parler de ce lieu et des institutions du Bon Pasteur, auquel il appartient.
Bien sûr. D'abord, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée. Hein. Impressionnée d'être dans un livre de Philippe Jaénada, impressionnée d'être à côté de Philippe Jaénada, impressionnée de prendre la parole avant Philippe Jaénada. Voilà, donc on prend ça en compte dans ma réponse sur Chevilly-la-Rue.
Elle dit ça alors que par mail avant-hier, je lui ai dit « ne t'inquiète pas, je te protégerai pendant toute la rencontre ».
Et oui, et d'ailleurs, je te fais confiance. Et je me sens protégée. Donc, Effectivement, beaucoup des jeunes filles indociles, déviantes, ne correspondant pas à ce qu'on attend d'elles, à ce que la société attend d'elles, à ce que les familles attendent d'elles, vont se retrouver dans un lieu très particulier que Philippe Jaénada raconte très bien dans son livre, un monastère tenu par des sœurs qui existe depuis le début du 19e siècle, mais qui est toujours là dans les années 50 et qui va avoir pour mission donné par la justice des enfants, par les juges des enfants, d'être un lieu d'observation des mineurs déviantes et délinquantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être un espace où il y a non seulement des religieuses, mais aussi des assistantes sociales, des éducatrices, des sœurs éducatrices et des psychologues et des psychiatres. Et il va y avoir une observation que j'ai appelée dans mon travail sous toutes les coutures. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en place une observation minutieuse du comportement des jeunes filles, parce qu'on pense que c'est cette observation minutieuse qui permettra ensuite de mieux connaître l'enfant et qu'ensuite le juge des enfants puisse décider de la bonne solution éducative, on va utiliser les termes de l'époque, hein, même si on pourra en discuter, la bonne solution éducative pour la suite de la prise en charge. Alors ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a un dispositif qui est mis en place dans ce centre d'observation qui produit de l'archive. Énormément d'archives. Donc c'est extraordinaire pour les historiens et l'historienne que je suis, puisque comme vous l'avez entendu, on va non seulement observer les mineurs, mais leur poser des questions. Et leur poser des questions de manière la plus scolaire possible pour que, soi-disant, elles ne se doutent pas que derrière ça, il y a ensuite une expertise psychiatrique, psychologique qui va se mettre en place. Donc on leur demande de faire des rédactions, on leur demande de faire des dessins. Bien sûr, il y a aussi des entretiens. Et puis il y a une observation minutieuse tout au long de la journée de ce qu'elles font ou de ce qu'elles ne font pas. Donc on note jour après jour, quasiment heure par heure, ce qu'elles font, ce qu'elles disent, pourquoi elles le disent, comment elles le disent. Voilà. Et donc c'est une terrible entreprise disciplinaire, alors même qu'on est à une période, et on pourra en reparler, où la justice des enfants se pense comme plus éducative. Donc c'est véritablement un lieu très disciplinaire et on en a discuté tous les deux, mais c'est aussi une source d'information sur quelle était la jeunesse féminine populaire des années 50 et 60 en France, absolument formidable, puisque là, même si on peut réfléchir à des biais peut-être de la source, mais on pourra y revenir, on a quand même une parole très directe des jeunes filles des années 50 et en particulier de celles qui parfois traînent à Saint-Germain-des-Prés.
Et alors, vous, Philippe, vous voulez bien nous dire un peu comment vous avez reçu la découverte de ce qu'était ce centre par lequel étaient passés vos moineaux ?
Alors, grâce à Véronique et grâce à un hasard assez incroyable, en fait. Donc, moi, je commençais mes recherches sur la jeune femme, la Kaki, et sur ses copines du bar chez Moineau. Je fouillais un peu partout sur Internet. J'avais appris, donc il y avait trois filles chez Moineau qui sont allées à Chevilly-la-Rue, qui s'en sont évadées et qui ont été reprises les trois. Jacqueline, donc, Kaki, une qui s'appelait Eliane, la petite Eliane, et une fille qui s'appelait Sarah. Je ne savais que ça, je savais, en m'étant renseigné, en ayant trouvé des témoignages, qu'elles étaient toutes les trois passées par Chevilly-la-Rue, et que leur point de rendez-vous, c'était chez Moineau. Et donc, à un moment, en essayant de trouver des renseignements sur l'une d'entre elles en particulier, Sarah, dont je savais que les deux parents avaient été déportés et assassinés à Auschwitz, mais je n'avais même pas... Si, j'avais son nom de famille, Sarah Aboif, elle s'appelait, j'avais son nom de famille, et en cherchant, j'ai dû taper sur Google quelque chose comme Sarah, Chevilly-la-Rue, chez Moineau. Et j'ai très peu de résultats, évidemment. Et un des résultats, je vois une thèse, c'est ça ? C'était une thèse ?
C'était une thèse.
Je ne suis pas tombé sur le livre Vagabond et ça, mais sur une thèse. Et je vois Sarah déclare, Sarah Chevilly-la-Rue déclare à l'éducatrice ou quoi. L'endroit que j'aime à Paris, c'est chez Moineau. Je me dis, ça y est, je l'ai trouvé. Je regarde qui a écrit la thèse, Véronique Blanchard. Je vois que Véronique a écrit Vagabonde, vicieuse, voleuse ou voleuse vicieuse, ouais, je ne sais pas.
Pas presque le tiers.
Et je me dis, ça ne peut être qu'elle, c'est-à-dire que Sarah, Chevilly-la-Rue, chez Moineau, c'est elle. Et donc, je lui écris, en me disant, jamais une universitaire, une chercheuse, me répondra, mais elle me répond presque direct. Je crois que tu étais à la réunion à ce moment-là. Elle me répond presque tout de suite. Elle dit oui, je crois qu'elle me dit j'aime bien vos livres ou quelque chose comme ça.
J'aime beaucoup vos livres.
Oui. Et par contre, elle me dit j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que dans la thèse et dans mon livre, évidemment par respect des familles et de la mémoire des gens, et tout, j'ai changé tous les prénoms. Donc en fait, cette Sarah dont vous avez trouvé trace dans mon travail, elle ne s'appelle pas Sarah et je vous le dis entre nous, elle s'appelle Suzanne. Et donc moi je me dis ben, malheureusement c'est pas elle, c'était trop beau, c'est pas elle. Et puis quelques jours plus tard, je découvre en faisant des recherches généalogiques d'état civil, etc., qu'en fait la Sarah de chez Moineau s'appelait en réalité Suzanne. Ce qui veut donc dire que la dame qui est là, quand elle s'est dit il faut que je trouve un pseudonyme, donc elle s'appelait Suzanne, la Sarah de chez Moineau, mais elle se faisait appeler Sarah partout. Elle disait qu'elle s'appelait Sarah. Quand elle s'est dit il faut que je trouve un pseudonyme, elle aurait pu l'appeler Rachel ou Elodie. Eh bien, elle a choisi l'instinct. Elle a choisi exactement le prénom qu'elle se donnait, le surnom qu'elle se donnait elle-même. Donc voilà, et on a commencé à échanger, à discuter tous les deux, et sans vouloir lui jeter des brassées de fleurs, mais Véronique m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour le livre, en particulier en m'introduisant presque clandestinement, je ne sais pas s'il faut le dire, aux archives du Val-de-Marne.
Vous avez dit que c'était secret.
C'est secret. Après, les gens, de toute façon, si ça sort d'ici, on prendra les noms et on saura d'où ça vient. Elle m'a permis de consulter les dossiers dont elle parlait là et dont on a lu un extrait tout à l'heure, de ces filles qui faisaient des rédactions, des dessins, et qui sont non seulement extrêmement émouvants, mais surtout passionnants et très utiles pour un travail là-dessus, j'imagine. Et pas de bol, celle qui m'intéressait, Jacqueline Kaki, son dossier avait en partie disparu. Alors on se dit que peut-être c'est parce qu'elle elle a refusé de faire des dessins, des rédactions, des choses, ou alors il a tout simplement été perdu, ce qui arrive de temps en temps.
Mais pour pouvoir imaginer, enfin vous figurez qui était Kaki, vous vous êtes appuyé sur les dossiers qui avaient été que vous trouviez dans le travail de Véronique Blanchard, mais aussi donc les écrits produits par Eliane et par Sarah.
Oui, parce que évidemment tous les adolescents et les adolescentes ne se ressemblent pas, mais il y a quand même, par exemple là, dans le portrait que faisait d'elle-même Michel, je crois, ça ressemble vraiment. Elles ont toutes sont des filles qui ont 15 ans, 16 ans, et qui quand même ont toutes les mêmes craintes, les mêmes envies, les mêmes refus, les mêmes, enfin grosso modo quoi. Donc oui, d'autant plus que Sarah et Eliane, dont les dossiers existent et qui sont, c'est des choses vraiment. C'est une mine d'or quoi, pour des chercheurs et pour un écrivain, étaient en plus des filles proches les unes des autres puisqu'elles étaient chez Moineau. Donc vraiment, elles disaient toutes « j'aime Saint-Germain, j'aime la musique, j'aime les poètes, j'aime la liberté, j'aime mes copines ». Enfin bon, y a, même si je n'ai pas retrouvé le dossier de Kaki, par capillarité, par voisinage, je peux savoir à peu près ce qu'elle aurait dit. Ouais.
Alors là, si Pierre Beau le veut bien, on va avoir la deuxième partie des salves d'extraits. Donc cet extrait de la désinvolture qui concerne le dossier de Kaki à Chevilly, ainsi que pour les archives de Véronique, le rapport d'observation du docteur Lemoal, qui est le neuropsychiatre du centre devant lequel tout le monde passe.
Ce qui est intéressant dans le dossier de Kaki à Chevilly, c'est qu'on y a adjoint le rapport du service social de sauvegarde de la jeunesse, rédigé après son évasion. Il est daté du 31 mai 1950. L'assistante sociale, Mademoiselle Grivel, a fait du bon travail, interrogeant sa famille, ses proches et, chose incroyable je trouve, elle précise qu'elle a vu la jeune fille pendant sa cavale, qu'elle lui a parlé. Jacqueline Annie Madeleine Arispe est née le 30 juillet 1933 à 5h45 du matin. L'accouchement s'est déroulé normalement. Elle pesait 3,5 kg. Elle n'a pas été allaitée, mais nourrie au biberon. Elle a eu sa première dent à 6 mois. Elle a marché à 1 an, a prononcé facilement ses premiers mots l'année suivante, n'a pas souffert d'énurésie, a eu ses premières règles vers 13 ans, normales, régulières, parfois douloureuses. Dans toutes les études sur les filles à problème, les règles sont particulièrement surveillées. On les soupçonne d'être la source de bien des anomalies ou déviances. Elle a eu la rougeole et la coqueluche quand elle était petite. Tout le monde dans sa famille et son entourage s'accorde à dire qu'en dehors de son amoralité et de sa paresse, sa grand-mère reconnaît qu'elle ne fait pratiquement rien depuis 5 mois et se lève rarement avant 1 heure de l'après-midi. Combien d'adolescents seraient paresseux et amoureux ? Kaki est une fille formidable. Pas du tout la sauvage, désaxée, indifférente à tout, uniquement préoccupée par son plaisir, nymphomane et égocentrique que certains journalistes et témoins laisseront entrevoir. Elle est bien plus proche du souvenir que Vali Maier aura d'elle 10 ans après sa mort, qui tient en 2 mots « sweet child ». Henriette l'a dit, charmante de caractère mais très indépendante, n'écoutant personne. Dans la famille, seul Daniel, son frère aîné, a tenté de s'opposer à elle, de l'empêcher de quitter l'appartement à certaines heures, ce qui entraînait des scènes bruyantes et violentes. Le frère frappait sa sœur, précise Mademoiselle Grivel, et des menaces de suicide jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait, sortir. Mademoiselle Grivel a pu rencontrer des voisins et des amis de Kaki qui renvoient tous la même image d'elle, une fille intelligente, légère, amorale, donc désintéressée, généreuse même, prête à tout partager, y compris ses vêtements, et absolument indifférente à ce qu'on peut penser de sa conduite. Elle fréquente plusieurs bandes, ne fait aucune distinction entre les bons et les mauvais, et couche avec les uns ou les autres sans en tirer aucune ressource. On dirait presque que c'est un reproche, elle fait pire que sa mère, elle se donne gratuitement, elle n'a pas de jugeote. Elle amène des garçons chez elle ou des garçons viennent la chercher chez elle. Elle n'envisage aucunement de travailler. Conclusion de l'enquête parmi les proches. En somme, Jacqueline est une fille pas méchante à qui il a manqué un père et une mère pour la guider et la surveiller. Mademoiselle Grivel donne elle aussi son avis sur elle. Elle l'a rencontrée 2 fois, d'abord à Chevilly, puis après son évasion rue Jacob. Elle la décrit d'abord physiquement, employant les mêmes mots que tout le monde. Jolie fille, très grande et trop mince, se tient mal. Elle aurait, selon elle, un problème à la colonne vertébrale. Elle note ensuite de manière étonnante, ou pas tant que ça, qu'à Chevilly, elle se montrait très gentille. Ce qui est en contradiction totale avec les observations lapidaires des encadrants qui ont décidé de l'envoyer en prison. Elle paraissait impatiente de retrouver sa liberté, mais insouciante de son avenir. Elle parlait avec beaucoup d'affection de sa grand-mère et surtout de sa sœur, Marguerite. Elle regrettait d'avoir accepté le bracelet, disait qu'elle était alors inconsciente. Lors de leur 2e rencontre, Kaki est en cavale et revenue à l'atmosphère du quartier latin. Elle est plus déterminée, elle refuse de se rendre. Mademoiselle Grivel ne l'a pas dénoncée. Elle ne comprend pas que Nicole, elle, principale coupable, soit en liberté dans l'attente d'un jugement possiblement clément, tandis que les plus jeunes, paradoxalement, sont enfermés. Sa copine Janine s'évadera le 5 juin, sera rattrapée 3 jours plus tard avant d'être remise à sa mère le 31 juillet. Kaki paraît beaucoup plus rétive qu'à Chevilly, plus farouche, vêtue de vêtements d'emprunt et prête à fuir. Mais on sent que Mademoiselle Grivel a tout de même beaucoup d'affection pour elle. Malgré l'influence nocive des bars du quartier latin, elle n'est ni grossière ni vulgaire et garde le sens de l'honnêteté. Elle est inquiète pour elle. Sa grand-mère voudrait la reprendre, mais se reconnaît incapable de la retenir. L'oncle Henri n'a aucune autorité sur elle. Et la situation financière est telle qu'aucun sacrifice pour elle n'est plus possible. Kaki dit vouloir reprendre ses études, mais en attendant, elle ne vit plus chez elle. On ne sait où ni avec qui, indique le rapport qui s'achève sur cette conclusion prémonitoire. Situation périlleuse qui ne saurait se prolonger. Extrait d'archives, rapport d'observation du docteur Le Moal le 17 mai 1955. Michel se présente essentiellement comme un sujet qui est le jouet de ses instincts sexuels et de son érotisme précoce. Elle manque totalement de discipline personnelle, n'a pratiquement aucun sens moral pour ce qui touche à la sexualité et se complaît dans une vie facile. Elle parle de ses mois de prostitution comme la solution la plus naturelle puisque la vie commune avec son mari ne pouvait continuer. D'autre part, elle est dominée par d'intenses sentiments d'infériorité comme on en trouve chez les sujets peu doués intellectuellement. Elle se montre en effet tantôt craintive, cherchant à acheter les bonnes grâces de ceux qu'elle redoute en les flattant, en se conformant, en faisant des cadeaux, en se disculpant. Tantôt, elle réagit sur un mode de compensation en faisant appel à la mythomanie. Sa mère ne serait pas sa vraie mère. Elle a pendu son mari. L'enfant qu'elle attend, elle n'est pas enceinte, est d'un soldat américain, fils d'un richissime industriel qui a de nombreuses voitures. Elle est faite pour la vie américaine. Tantôt, mais rarement, il est vrai, on voit surgir quelques manifestations d'agressivité. L'ensemble de la personnalité laisse une impression de déséquilibre, de disharmonie avec des côtés très puérils et même naïfs et gauches qui la font devenir facilement tête de turc. Et d'autres qui témoignent d'une lourde expérience dans les milieux les plus bas sans que certains plans essentiels de la personnalité aient été atteints, comme si tout cela avait été essentiellement subi.
Merci beaucoup. Ce mot d'amoralité qui est beaucoup revenu concernant Kaki et les jeunes filles et puis qui qualifie aussi Michel, le docteur Le Moal l'utilise beaucoup de manière générale.
Ah, le docteur Le Moal est très persuadé que la question de la déviance des jeunes filles dans les années 50 et 60 est liée à une forme d'amoralité, de sexualité débridée, de chute probable dans la prostitution. Donc il y a vraiment quelque chose de très spécifique autour du corps de ces jeunes filles, autour de leur sexualité soi-disant précoce, autour de cette jouissance trop facile, comme l'assistante sociale le dit, et c'est totalement obsessionnel. Et c'est totalement obsessionnel chez ce psychiatre qui va en permanence, vraiment là c'est un exemple parmi d'autres, hein, j'en ai des dizaines et des dizaines, parler de cet instinct sexuel dévoyé de ces jeunes femmes qui devraient, dans son esprit et dans l'esprit de beaucoup dans les années 50 et 60, qui devraient être des femmes pures, vierges, obéissant à leur mari, Michel est marié, se préparant à être de futures bonnes mères, bonnes ménagères, et c'est vraiment ça le cadre de rééducation tel qu'il est pensé à ce moment-là. Alors c'est sûr que beaucoup de jeunes filles, dans cette époque-là, à cette époque-là, ne souhaitent pas ressembler à ce modèle-là et qu'elles sont en train réellement de tenter d'avoir des formes de liberté, d'émancipation, d'indépendance, comme le dit l'assistante sociale pour Kaki, comme le clame Kaki, comme le clame nombreuses des jeunes filles qui se retrouvent chez Moineau. Le prix à payer, le prix social est très cher, est très lourd. Extrêmement lourd, non seulement parce que ça veut dire des moments de claustration comme à Chevilly ou même en prison à Fresnes, hein. Il suffit de fuguer de Chevilly pour se retrouver en prison, alors même que la fugue dans les années 50 n'est pas un délit et normalement ne doit pas vous amener à la case prison. Ça a aussi un coût au niveau familial et ça peut aussi avoir un coût dans le cadre presque parfois vital, hein. C'est-à-dire que ces jeunes filles vont parfois ne plus supporter un certain nombre de ces pressions sociales et de cet enfermement et de cette discipline.
Kaki est décrite comme amorale, mais aussi donc comme impatiente de sortir, mais indifférente à l'avenir. Et cette indifférence à l'avenir, c'est le point commun des moineaux. Et on a l'impression que c'est une partie quand même de ce qui vous touche dans cette bande.
Alors oui, c'est le point commun qui se manifeste de différentes manières. C'est-à-dire que Kaki le dit, le manifeste clairement. D'autres, par exemple, Sarah ou Eliane, quand on regarde leur dossier à cheville, se projettent vers des avenirs dont peut-être elles devinent qu'ils ne seront pas possibles pour elles. Mais Sarah, par exemple, dit qu'elle veut faire le tour du monde, elle veut aller en Inde, en Australie. Elle en parle beaucoup. Elle doit pressentir au fond d'elle que c'est mal parti pour ça. Et Eliane veut devenir chirurgienne. Ce qui surprend beaucoup les gens de Chevilly, les éducatrices et le psychiatre, qui dit d'ailleurs qu'elle veut devenir chirurgien. Elle n'arrive même pas à prononcer le féminin. Et pour Sarah, il dit c'est bien, elle a envie de voyager, elle a envie de... Bon, on va la mettre dans le tourisme, on va lui trouver un truc dans une agence de tourisme, ou peut-être interprète si elle a envie de parler des langues étrangères, mais bon, on les rabaisse. En tout cas, oui, je pense qu'elle pressente tout, et ça s'est vérifié malheureusement, soit de manière très radicale pour Kaki, qui n'a pas eu d'avenir du tout, soit pour les autres qui, malheureusement, ont été empêtrés, mais en tout cas, non seulement à cette époque-là, juste après la guerre, et puis à cet âge-là, 15-16 ans, elles ont encore quand même, rien de précis, mais elles ont un élan. Et d'ailleurs, il y a quelque chose moi, qui m'a marqué beaucoup en travaillant sur elles, j'allais dire, en essayant de les comprendre et de les connaître, c'est que les filles de cette époque-là, celles de chez Moineau en tout cas, elles sont fortes. C'est-à-dire qu'elles, par exemple, sur les photos de chez Moineau, et puis même dans les témoignages que j'ai pu recueillir, les garçons sont plutôt, pas bébêtes, mais un peu soit très amoureux, soit ils picolent beaucoup et tout. Les filles, sur la plupart des photos, sont elles qui lèvent la tête, sont elles qui sont présentes, qui s'affirment. Après, il faudra attendre longtemps. Je pense que c'est parce que c'est juste après la guerre et qu'il y a cette sorte de force comme ça qui leur vient et qui est vite réprimée puisqu'on les redresse et on les corrige. Mais il faudra attendre le milieu des années 60 pour que les femmes et les filles reprennent un peu la parole et se mettent devant au premier plan des photos, quoi. Donc elles ont ça, elles ont été muselées. On a eu un petit échange avec... Elle m'a redressé d'ailleurs, elle m'a corrigé. Moi j'ai eu une impression trompeuse en tant que, évidemment, que profane complet, hein, de tout. J'ai découvert tout ça... En faisant mes recherches pour ce livre, j'ai écrit un jour à Véronique en lui disant quand même, à Chevilly-la-Rue, les éducatrices, bon, le psychiatre, le môle, ou le moelle, je ne sais pas comment on dit, alors lui, il est gratiné, mais moi, j'avais l'impression dans les dossiers que les éducatrices s'intéressaient aux filles, qu'elles les observaient, mais qu'elles s'intéressaient, qu'elles leur posaient des questions, qu'elles essayaient de les comprendre et tout. Et j'ai écrit à Véronique, finalement, parce qu'il y avait donc Chevilly-la-Rue, c'était le centre d'observation où elles restaient 3 mois en général, et au bout de ces 3 mois, on décidait... Soit on les remet à leurs parents, ou on les remet à leurs amoureux, mais il faut qu'elles se marient, hein, parce que là, si on les remet à l'amoureux, c'est pas pour qu'elles aillent traîner dans les rues, c'est pour qu'elles aillent à la cuisine, soit avec le balai, soit on les envoie en centre de redressement ou de correction, les bons pasteurs, ce qu'on appelait les bons pasteurs, qui étaient, je pense, là pour le coup, vraiment violents et carrément, c'était carcéral et brutal. Et donc, je disais à Véronique que, quand même, à Chevilly, ça va, quoi. On s'intéressait à elle. Quand Sarah dit qu'elle veut voyager, on dit « Ah, mais peut-être que tu pourrais faire ci ou ça. » Et elle m'a remis à ma place d'un petit coup sec, un petit coup de baguette sec, en me faisant remarquer que l'observation, c'est une violence, en fait, surtout à cet âge-là. C'est-à-dire que la première chose que faisaient les filles le jour où elles arrivaient à Chevilly-la-Rue, on leur demandait de prendre une douche nue devant l'éducatrice ou la bonne sœur, ou je ne sais plus. Et donc, c'est-à-dire que même si moi, là, on me demande de prendre une douche nue devant vous, ça va me faire un peu bizarre, mais alors, une fille à 15 ou 16 ans, c'est d'une grande violence, et c'est symbolique, mais elles étaient observées, quand tout à l'heure Véronique disait, sous toutes les coutures, c'est-à-dire non seulement de manière aussi, comme ça, directe, on les regarde nues sur la douche pour voir comment elles se lavent, etc., mais effectivement, on sondait leur esprit, on sondait leur passé, racontez votre vie en 5 dessins, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, et c'est vrai... que vu de ma position un peu crétine, qui ne connaissait rien je me dis, c'est bien, on s'intéresse à elles, et on, alors qu'en fait, on les violente, on les scrute, enfin vraiment, moralement, ça devait être très dur. Avec en plus, cette chose étrange, contrairement à la prison, c'est que quand elles arrivaient à Chevilly-la-Rue, elles ne savaient pas du tout pour combien de temps elles étaient là, et elles ne savaient pas ce qui les attendait du tout, on leur disait rien, c'était pas un jugement, il n'y avait pas eu un tribunal ou quoi, on les mettait là, la plupart au début disaient, ah ben c'est bien, c'est sympa, j'ai rien à faire, je mange, etc. Et en fait, elles restaient 3 mois, souvent sans voir leurs proches, et ne sachant pas quand on allait les libérer, c'est pour ça qu'elles s'échappaient pour la plupart.
Alors, je vous propose de parler un petit peu de la période qui est concernée par les Moineaux et par votre thèse. Vous avez écrit plusieurs autres livres, mais un autre, Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, avec David Nigel, où vous situez cette période-là, celle qui va de 1918 à 1963, vous l'appelez le temps des modernes, qui est situé entre le temps des filles perdues et celui des filles rebelles. Et donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce cas de spécifique, cette époque, et cette époque de l'après-guerre, peut-être plus spécifiquement, avec l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, sur la manière dont ces jeunes femmes avec des aspirations à la liberté sont traitées. Et puis après, ce sera votre tour pour une autre question, Philippe Jaénade. Ne croyez pas qu'on vous laisse comme ça.
Il faudrait que j'arrive à faire bref, concis et clair. C'est compliqué de résumer comme ça la période. En fait, ce qu'on a essayé de montrer dans Mauvaise fille, le livre que vous citez avec David Niger, et puis ce que montre, je crois, vraiment très bien Philippe dans la désinvolture, c'est ce moment de l'après-guerre, c'est ce moment de la libération, mais aussi de la reconstruction. Et d'enfants qui, et Philippe le dit vraiment très très bien dans le livre, et je pense que c'est très important, c'est des adolescents, des jeunes gens qui sont des enfants pendant la guerre. Et ils n'ont pas 2-3 ans, ils ont 10 ans, 11 ans. Donc en fait, ils se prennent en pleine figure la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas rien de se prendre en pleine figure la Seconde Guerre mondiale quand vous avez 10-12 ans. C'est-à-dire que vous êtes assez grand pour comprendre et pas assez grand pour tout comprendre. Et vous allez vivre, comme Sarah, Suzanne, des moments extrêmement dramatiques. Elle perd ses deux parents. Donc voilà, on a une génération qui est la génération de l'après-guerre. Et d'une certaine manière, les adultes des années 50 et 60, la société des années 50 et 60, effacent presque ce moment de traumatisme pour les enfants de la guerre. Donc il y a une volonté à la fois de reconstruction, d'une justice des enfants qui se veut plus éducative, plus compréhensive, qui met en place des techniques plus scientifiques, telles que l'observation, et en même temps, on a des adultes qui sont incapables de réfléchir au trauma que ces enfants et ces adolescents ont vécu, et en particulier pour les filles, parce que pour les filles, de toute façon, on est totalement obsédé sur la question, je le redis, de la pureté, de la virginité, de la sexualité dévoyée, du risque de la prostitution. Et sur ça, il n'y a aucun progrès entre avant et après la guerre. Donc voilà, c'est ça le contexte, et ce qui donne quelque chose d'extrêmement répressif et normé pour les jeunes filles des années 50. Mais en même temps, on est dans un pays qui est en train de fêter, célébrer cette libération. Il y a des Américains, il y a du jazz, il y a des cafés. Les garçons, eux, ont le droit de sortir, ont le droit de boire. Et donc, il va y avoir un élan, comme l'a dit Philippe, un élan des jeunes femmes pour essayer de tenter elle aussi, de profiter de ce moment-là. Voilà, c'est tout ça, je crois, qui raconte ce moment des années 50 dans le Paris existentialiste. Alors ça, c'est un très gros mot dans la bouche des spécialistes de la justice des enfants. C'est absolument terrible d'être un existentialiste. C'est terrible de lire Sartre. De toute façon, elles n'y comprennent rien, selon le moelle. C'est terrible de traîner à Saint-Germain-des-Prés. C'est terrible de mettre des salopettes. C'est affreux de danser au tabou. C'est absolument possible pour une jeune fille de boire, et pourtant elles boivent beaucoup chez Moineau, et elles se renversent la tête. C'est tout ça qu'on retrouve, à mon sens, de manière formidable dans la désinvolture. C'est tout ça que Philippe a totalement perçu, raconté, surraconté à travers les archives qui sont celles, bien sûr, de Chevilly-Larue, de la justice des enfants, mais toutes les autres. Parce qu'en fait, Philippe, c'est un historien. Il sait le cépage. Mais c'est vraiment impressionnant à quel point... un côté obsessionnel peut-être, mais peut-être que l'historien et l'historienne sont des obsessionnels, fait qu'il cherche, il cherche, il cherche, et il trouve beaucoup.
Gentil, je vais tout piquer, je dis que c'est moi l'historien. Là, c'est Eliane, c'est une des filles, la petite Eliane, c'est une des filles qui était à Chevilly. Et par rapport à ce que Véronique vient de dire, je ne me rappelle plus où j'ai trouvé ça. Si j'ai trouvé ça dans un jugement d'un juge pour enfants, ou peut-être dans un des livres... de Véronique que j'ai allègrement pompé, mais je me souviens d'une, il y a une descente de police dans un hôtel à Saint-Germain, un meublé comme on l'appelait à l'époque, où la plupart de ces gamins dormaient, et ils trouvent un garçon et une fille dans un lit, je pense 16 ou 17 ans, 17 ans disons. La fille est aussitôt conduite à Chevilly-Larue parce que évidemment elle prend un chemin très dangereux, c'est pas comme ça qu'on devient une bonne mère de famille. Donc évidemment on l'envoie pour se faire redresser tant qu'il est encore temps, et le garçon il a écrit noir sur blanc, tu me diras si c'est dans ton livre ou dans ta thèse, que lui se forme à sa vie d'homme en fait, c'est-à-dire qu'elle est en train de partir complètement en sucette, en cacahuète, mais lui s'entraîne pour sa prochaine vie d'homme, donc on le remet à ses parents tranquillement, c'est bien, il faut un peu d'échauffement, un peu d'entraînement avant de se marier et malheureusement de ne plus pouvoir coucher avec toutes les filles qui passent, donc lui, c'est bien. Et elle, ça te dit quelque chose ou pas? C'est dans ton livre,
c'est
dans...
Oui, c'est dans les archives, à plein d'endroits dans les archives, tout à fait. Et elle, il y a aussi le vol de mobylette, lui est poursuivi pour vol, elle pour mauvaise fréquentation. Et pourtant, c'est elle qui a eu l'idée du vol et c'est elle qui vole la mobylette. Et la mauvaise fréquentation, ça n'existe pas dans le code pénal. Donc voilà, il y a vraiment un double standard, un double regard. Et... ce que tu viens de dire est extrêmement important, je pense aussi en termes de réflexion autour de la relation fille-garçon, parce que vous imaginez bien que si pour un garçon, il est tout à fait normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, plusieurs, que c'est même ça qui forme un homme, et que pour une jeune fille, c'est absolument impossible, interdit, contre la morale, vous imaginez bien que là, on a un problème quand même. Parce qu'on a des hommes qui doivent et des femmes qui ne doivent pas. D'accord ? Donc, soit ça crée, excusez-moi pour le vocabulaire, des putes, celles qui acceptent, d'accord ? Soit ça crée des hommes qui forcent les filles, parce que la relation est nécessaire pour la mise en place d'une éducation à la masculinité. D'accord ? Et pourquoi j'insiste ? D'abord parce que c'est vraiment des questions d'actualité. Et puis ensuite parce qu'on a quand même des jeunes filles, et tu en parles aussi dans le livre, qui vont subir des violences sexuelles à multi-reprises, qui vont subir aussi des violences intrafamiliales, sexuelles intrafamiliales, et que c'est quelque chose qui n'est absolument pas vu, pas perçu, pas pris en charge par la justice des enfants. Même quand elle observe sous toutes les coutures, ça, elle ne l'observe pas.
Alors, vous avez été traité d'historien, Philippe. Et alors, dans les archives, donc vous tombez sur les moineaux, notamment grâce aux photos donc on a de Ed van der Olsen qu'on a montrées. Vous avez travaillé sur les archives grâce à Véronique. Et puis, il y a aussi la presse. Alors, attendez, hop. Voilà, il y a un article qui est paru... quand l'amoureux de Kaki, Boris, a lui aussi essayé de mourir. Et puis là, un autre, Jacqueline, a partagé la cellule de Miss Vice.
Ça, tous les articles de presse, si on a parlé d'elle, elle n'est pas connue pour rien, évidemment, hein, mais si on a parlé d'elle dans les journaux, c'était pour qu'elle serve, pour montrer ce que devenaient les filles. Le roman noir d'une désaxée de Saint-Germain-des-Prés, il y a sur un autre...
Sur celui-là.
C'est sur celui-là. Ah bah oui, c'est marqué en haut. Ou Miss Vice, c'est pas par hasard, si on met Miss Vice. En fait, elle n'a pas du tout partagé la cellule de Miss Vice. Il y a une jeune femme qui a été élue au tabou, que aurait pu être vous.
Comme vous y allez.
Évidemment. Qui a été élue Miss Vice en maillot de bain. Bon. Et donc, elle a eu le nom de Miss Vice. Et elle était à Fresnes au même moment. Mais ils insistent toujours sur le fait que il faut que ça serve, il faut que ce soit un exemple, que ça serve d'exemple pour toutes les jeunes filles. Voilà ce qui arrive quand on va dans les bars, quand on couche avec des garçons, on finit écrasé sur le trottoir à 20 ans. Et tous les articles, presque tous les articles sont axée de ce côté-là, même de manière plus ou moins discrète et détournée. Elle a partagé la cellule de Miss Vice. On imagine ce que, on dirait presque que c'est de sa faute, que c'est elle qui a voulu aller à Fresnes. Et je rappelle qu'elle est allée à Fresnes pour absolument rien. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a trouvé tout à l'heure dans l'extrait, certains n'ont pas dû comprendre, mais il était question d'un bracelet. En fait, elle était dans une soirée, il y a une amie à elle qui a volé des choses, un bracelet, une lampe torche, hein, je ne sais plus quoi, et qui lui a donné en cadeau à Kaki un bracelet. Elle a 16 ans, elle se retrouve à Chevilly directement, sans jugement ni rien. Enfin, je l'ai envoyée comme ça à Chevilly. Une correction parentale, ça s'appelait. Enfin, ça n'existait plus à cette époque-là, mais ça revenait à peu près.
Si, ça existait. Je peux te dire où?
Oui, ouais, oui, bien sûr.
Correction paternelle.
Là, tu manques pas de toupet d'interrompre un historien. Oh. Enfin,
je dis juste ça. Correction paternelle jusqu'en 1958.
Ah, je croyais que ça s'était arrêté avant. Donc, correction paternelle, c'est papa-maman qui disent « mettez-la en centre de redressement ». Et donc, on l'envoyait. Donc, bref, elle se retrouve à Chevilly. Juste parce qu'on a trouvé un bracelet sur elle qu'elle n'avait pas volé. Elle s'évade, parce qu'on comprend qu'elle s'évade au bout de, je crois, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et quand on la rattrape, on l'envoie à Fresnes. Donc elle se retrouve à Fresnes avec les détenus. On a consulté aussi avec... Alors malheureusement, encore une fois, son dossier de détenu est perdu. On a vraiment la poisse. Elle était rebelle, elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Mais il y a quand même le registre d'écrou où voilà, elle se retrouve à Fresnes avec des détenus pour rien, juste parce qu'elle s'est évadée dans l'endroit où on l'avait mise alors qu'elle n'avait pas à être là normalement.
La presse vous sert moins pour comprendre les faits tels qu'ils sont passés que pour comprendre les représentations de l'époque. Et ça vaut depuis La Petite Femelle, votre livre sur Pauline Dubuisson.
Oui, parce que de toute manière, on ne peut pas vraiment se fier. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail, d'autres moins bien, d'autres qui inventent. Mais surtout vous, Raphaël, qui êtes mon idole, vous le savez. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une seule journaliste à qui je fais confiance en France, c'est Raphaël Lyrès. C'est vrai. Qu'est-ce que j'allais dire?
Quand moi, je n'étais
oui.
pas là.
Donc on ne peut pas... Ouais. Loin de là. Votre arrière-grand-mère avait encore sa tétine. On ne peut pas se fier à ce qu'on trouve dans la presse. C'est peut-être vrai, peut-être que non. Les journaux se contredisent, donc je ne sais pas pour ça que je l'utilise. Mais effectivement, on voit toujours, et là pour mon prochain livre, c'est exactement pareil, on voit... il faut que ça serve à éduquer. On ne sait pas qui... je ne suis pas complotiste ni rien. Là, en l'occurrence, il faut surtout que ça serve à vendre des journaux, quoi. Mais il y a toujours une raison si on parle. Elle, il y a eu quand même, tous les journaux de l'époque ont mis en une, ou presque en une, le suicide d'une jeune fille de 20 ans. A priori, malheureusement, il y en a beaucoup. Sauf qu'elle, elle servait à ça. Elle servait à dire, attention les filles, si vous n'êtes pas sérieuses, c'est foutu pour vous. Donc voilà, oui, c'est ça qui m'intéresse en fait dans les journaux de l'époque. Et on critique souvent la presse aujourd'hui et tout ça. À l'époque, c'était pire, donc c'est mieux aujourd'hui. C'est bien quand même, c'est un truc mieux.
Alors, le temps file très très vite et on va avoir un troisième temps de lecture et ensuite un temps de questions de la salle. Mais je voudrais parler un tout petit peu avec vous deux, mais alors en commençant par vous, Véronique, sur la circulation entre la littérature et les sciences humaines, puisque avant d'avoir été un personnage de Philippe Janada, on vous trouvait en Majesté aussi dans un autre très très beau livre, La révolte des filles perdues, de Dorothée Janin, qui est un livre sur une révolte qui a eu lieu à Fresnes en 1947, à la prison de Fresnes, de jeunes filles qui ont voulu faire une espèce de bacchanal, de très grande révolte. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la manière dont la littérature se nourrit du travail des historiens, dont ça circule? Parce que vous disiez que vous lisez Philippe Janada depuis longtemps et qu'il apparaît dans votre livre.
Oui, alors je peux répondre du côté de l'historienne. D'abord, oui, moi, La Petite Femelle m'a accompagnée pendant toute l'écriture de ma thèse. Et Philippe est cité, c'est moi, Prums. Hein, j'ai d'abord cité Philippe Janada avant qu'il me cite.
C'est juste un renvoi d'ascenseur par politesse.
C'est ça. Et... Et donc, moi, je pense que bien sûr, hein, et Jaena, Philippe Jaenada, il est il m'a accompagnée dans ma réflexion sur les représentations du féminin dans la justice, et c'est quelque chose qui fait très bien dans La Petite Femelle, comme Annie Ernaux m'a accompagnée sur sa réflexion autour de la place des filles dans les années 50. Et je pense que quand on est historienne, on a besoin des écrivains et des écrivaines pour se nourrir, pour réfléchir. La même chose sur la question de MeToo, des violences sexuelles. C'est aussi des autrices qui écrivent sur ces questions-là qui m'aident à réfléchir sur comment ensuite je peux lire les archives pour essayer de comprendre d'où viennent ces phénomènes, etc. Après, mais ça va être à Philippe de répondre, c'est très... Vraiment, je vais réutiliser le terme, je ne sais pas très bien comment le dire, mais c'est, on va le dire comme ça, c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement agréable, hein, quand on est une historienne, de se rendre compte que nos travaux scientifiques, une thèse, peuvent donner à réfléchir, peuvent nourrir des artistes, hein, que ce soit des écrivains, des écrivaines, des documentaristes, des metteuses en scène de théâtre. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement satisfaisant. C'est une grande chance. J'ai un sujet qui touche la société actuellement, et du coup, mes travaux permettent à certains artistes de continuer la réflexion, de continuer à en parler, et c'est extrêmement, voilà, satisfaisant, c'est très satisfaisant.
Alors vous êtes satisfait de cette circulation, d'avoir cette, oui, à disposition, oui, ces travaux?
Alors je veux quand même dire que Véronique, bon, on dirait vraiment qu'on n'arrête pas de ça. Véronique fait un travail très sérieux, par exemple la thèse que j'ai trouvée sur internet, je ne sais pas si elle existe en papier, moi je l'ai trouvée sur internet, enfin oui, ils sont en papier, mais je veux dire dans le commerce, c'est sérieux, ça peut paraître rigide et tout, mais il y a une telle force de vie et de souffrance, d'espoir, de tout ce qu'on veut. Son livre Le Vagabond, là c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire que moi je conseille aux gens que j'aime, comme je conseillerais un roman ou un essai ou ce qu'on veut, mais c'est vraiment quelque chose de très poignant. Et donc la circulation entre les deux, entre nous ou entre plein d'autres, est normale, puisqu'on a les mêmes intérêts, les mêmes émotions, les mêmes attirances et les mêmes révoltes. Moi, je l'écris plus ou moins sous forme romanesque, Véronique sous forme plus sérieuse, mais c'est vraiment, moi, on fait, en tout cas sur ce sujet-là, le même travail, oui, sous des formes différentes.
Eh bien, merci beaucoup, les deux historiens. Et donc, si Pierre Beau veut bien... Les deux romanciers. Oui, on posera la question à Arlette Farge. Voilà, les troisièmes salles. Donc, d'une part, la scène de la mort de Kaki, et puis ensuite, une lettre laissée par une jeune femme. Je laisse Pierre Beau.
Dans le taxi et en arrivant à l'hôtel, tout allait bien entre Kaki et Boris. Ils avaient bu un peu trop de vin, ils étaient fatigués, mais ils s'apprêtaient à passer une fin de nuit calme, ordinaire, amoureuse. Ils ont fait du thé sur le petit fourneau de la chambre avant de se coucher, ont bu un bol chacun. Ils ont ensuite évoqué leur avenir, ou peut-être celui de la fille de Kaki. Ils se déshabillaient en même temps. Ils étaient sur le point de se coucher, Kaki était en culotte, Boris nu. Elle a allumé une cigarette. Il lui a fait comprendre, vaguement et prudemment d'abord, que même s'il l'aimait, ce dont il ne fallait pas qu'elle doute, il n'était que de passage en France. Son visa allait bientôt expirer, sa vie était à New York, elle ne devait pas envisager un vrai futur avec lui. Elle ne pouvait pas compter sur lui pour les années à venir. Il rentrerait chez lui, tôt ou tard. Pas tout de suite, mais... Kaki, blessé, s'est progressivement braqué et le ton est monté. L'Américain s'est mis à lui parler plus durement, plus définitivement. Il s'est senti entravé, il n'aimait pas cela. Il était assis au pied du lit, elle marchait de long en large dans la petite chambre. Il dira aux enquêteurs qu'elle était très vexée, mais ce doit être plus que ça ou autre chose. Elle finit par lui lancer à la figure le cendrier qu'elle tient à la main, qui le percute en plein front, au-dessus de l'œil gauche, une plaie, le sang coule, aussitôt elle regrette. Elle s'empare d'une serviette éponge, la mouille et vient essuyer doucement sa blessure. Il lui dit qu'il ne lui en veut pas, mais elle doit penser qu'il a pitié de lui, elle déteste ça. Elle ouvre la fenêtre et déclare qu'elle va sauter. Puisque c'est comme ça, elle n'a plus envie de vivre. Elle fait un mouvement vers l'extérieur, il est toujours assis sur le lit tout près d'elle. Il se lève et l'attrape, referme la fenêtre, la prend dans ses bras quelques instants pour la calmer. Il n'est pas spécialement inquiet. Il la sait relativement comédienne. Il dira au commissaire « Je dois vous signaler que mon ami avait un genre dramatique. » Un soir de dispute, elle a déjà juré qu'elle allait s'ouvrir les veines si ça continuait, comme une enfant qui boude. Les deux frères de Kaki, Danny et Riquet, apporteront des témoignages similaires. Le plus jeune, Riquet, déclarera que sa sœur a maintes fois annoncé qu'elle allait mettre fin à ses jours et qu'elle avait même essayé à plusieurs reprises, dont deux cette année, en janvier et en avril. Elle a tenté de sauter par la fenêtre de notre appartement. La première fois, c'est Danny qui l'a retenue, la deuxième, André, la femme de leur oncle, Henri. Je me dis deux choses. Que si l'on veut sauter par la fenêtre, on choisit en général un moment où quelqu'un ne se trouve pas à 2 mètres. Et qu'en conséquence, ces tentatives étaient directement liées à une dispute, ou en tout cas qu'elles s'apparentaient davantage à une menace qu'à une réelle volonté de se tuer. Ce que confirmera Danny. Il explique que sa sœur avait un caractère enjoué, mais que parfois, sous le coup de l'exaltation, elle pouvait se montrer excessive et jouer la comédie. Il pense que lorsqu'elle menaçait de se suicider, c'était par bravade ou chantage la plupart du temps. Il relatera lui aussi ses deux tentatives de se jeter par la fenêtre de leur appartement. « À mon avis, la mort de ma sœur est la conséquence d'un acte désordonné de sa part. » Il est possible que, voulant intimider son ami à la suite d'un différend qui les avait opposés, elle ait fait le simulacre de se jeter par la fenêtre et qu'elle soit tombée en perdant l'équilibre. Une fois calmée par Boris, Kaki lui annonce que dans ce cas, s'il doit retourner aux États-Unis, alors autant qu'elle parte tout de suite. Elle s'en va. Voilà, elle rentre chez elle. Il sera content. Elle commence à se réhabiller. Elle a posé ses vêtements sur le lit dans lequel Boris est déjà couché. Elle met son soutien-gorge. Il ne va pas l'empêcher de partir, il en a marre, puisqu'il faudra une rupture à un moment ou à un autre. Ça sera maintenant, tant pis, il a sommeil, on verra demain. Elle enfile son gilet. Elle s'assied sur la chaise pour mettre ses chaussures. Elle se penche pour en lacer une. Boris dit alors, innocemment, quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Il lui suggère de prendre de l'argent dans la poche de son pantalon, pour le taxi peut-être, ou même pour les jours suivants. Cette fois, elle se vexe fort. De l'argent, comme une pute, elle est meurtrie. Elle ouvre brusquement la fenêtre, grimpe sur la chaise pour enjamber la rambarde. Il rejette les couvertures et se rue vers elle. Elle n'a pas encore sauté. Elle est sur le bord extérieur de la fenêtre, à peu près debout, et se tient de la main droite à la barre d'appui. Derrière elle, les jambes fléchies. Selon Boris, elle est en train de s'asseoir. Quand il l'atteint, elle a sans doute un début de mouvement de réflexe. Elle lâche la rambarde ou décide en un centième de seconde de sauter, de ne pas se laisser attraper. De ne pas perdre. Il agrippe l'élastique de sa culotte à l'instant où elle bascule, à l'instant où elle tombe. Correspondance, lettre confisquée, sans doute lettre écrite avant la tentative de suicide, Catherine, 1958. Ce soir, j'ai réussi à échapper au somnifère et j'ai voulu bavarder avec toi. J'ai de la peine d'avoir dévoilé la vérité, comme nous allons souffrir tous les deux. Pourtant, je sais que, de jour en jour, la fin approchera, mais il me reste beaucoup d'espoir. C'est ton amour qui m'aidera à tout accepter. Et vois-tu, jamais je n'ai tant réalisé combien je t'aimais, et quand je souffre trop, je pense à toi, à tous nos souvenirs. Depuis la première fois où tu m'as embrassé, te rappelles-tu comme il pleuvait ? Mais je m'en moquais bien, mon cœur battait si fort dans ma poitrine. Tous les soirs, je prie pour te revoir avant. Si je dois mourir, je voudrais mourir dans tes bras, et là, je ne verrai pas le grand gouffre profond qui est la mort. Je n'ai peur. Et toi, dis-moi, mon petit ange, tu seras bien courageux ? Tu sais, le temps effacera vite ton chagrin, ma mort ne t'empêchera pas de vivre. Je voudrais que tu trouves une jeune fille qui te rende heureuse. Personne ne sait mon état, à part le docteur, toi et maintenant papa.
Merci beaucoup, Pierre Vaux. Ouais. Ah oui, vous pouvez. Hein. Eh bien, c'est à vous de poser des questions. Elles sont les bienvenues. Et il y a un micro qui circule en la personne de Monica Brochnevit.
Merci. Bonjour, je vais me lever. J'ai une petite question sur l'écriture. Quand on lit le roman, alors c'est en parallèle aussi avec votre vie à vous, qui est un petit peu, fait un peu, je sais pas, on pourrait dire la tournée des bars en France, on pourrait dire ça.
On peut.
Et je voulais savoir si vraiment la manière dont vous écrivez suivait la manière dont vous faites vos découvertes dans les archives, ou si vous revenez en arrière pour modifier des choses à la lueur d'une nouvelle découverte.
Alors, je déteste cette question, parce que ça m'oblige à dire la vérité, alors que dans les livres, on a le droit de mentir. Mais dans la vie, non. Donc, c'est une construction littéraire, en fait. C'est-à-dire que, autant tout ce dont je parle dans le livre, notamment, évidemment, tout ce qui concerne ces jeunes gens et l'histoire passée, et au détail près, authentique, en tout cas, autant que possible, en tout cas, fidèle à ce que j'ai trouvé dans les archives ou dans mes différentes recherches, autant pour le reste. Donc là, par exemple, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, en fait, du début à la fin, je fais le tour de France. Pendant que je raconte l'histoire de ces jeunes gens enfermés dans un petit bistrot à Saint-Germain-des-Prés, je pars de Dunkerque, je suis tout seul, je pars en voiture de Dunkerque, et en 24 jours, je fais le tour de France par les bords, les côtes, les Pyrénées, les frontières, etc. Et donc, dans le livre, à chaque étape, à Dunkerque, à Cherbourg, à Saint-Nazaire, à Arcachon, à Maubeuge, à Port-Vendres, à chaque étape, je reçois, et d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas vrai, parce que c'est illégal, je reçois des mails des archivistes qui sont devenus mes amis, comme Véronique, à la fois mon idole et mon ami, ou des archivistes, des archives de Paris, de préfecture de police, etc., qui m'envoient par mail des dossiers, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, en fait, en vrai, quand je commence mon tour de France, que j'ai vraiment fait, hein, pour le coup, j'ai déjà toute ma documentation. Ça fait un an et demi que je travaille sur le livre. Et pour la construction littéraire, je me fais travailler à Toulon ou à Évian-les-Bains, alors qu'en vrai, je ne foutais rien. C'est-à-dire que simplement, j'allais de ville en ville sans rien d'autre à faire que d'aller dans les bistrots, au restaurant et dormir et regarder Koh-Lanta le soir à la télé. Mais voilà, dans le livre, en fait, et je n'écris jamais, ça dépend de tous mes confrères et mes consoeurs ont des méthodes différentes, mais moi, je commence jamais à écrire la première phrase du livre sans avoir déjà tout la documentation et tout le plan en tête.
On peut peut-être préciser que cette glande était à visée épistémologique, puisque c'était pour ressentir ce qu'avaient vécu les moineaux des Involtes, ce que c'était que d'avoir des journées entières de rien.
Oui, en fait, c'était pas tellement calculé, mais c'est au début, je me suis dit, j'ai envie de faire le Tour de France, de m'offrir le luxe de faire le Tour de France sans rien à faire. Et je m'étais dit, il faut que ça ait l'apparence d'un truc utile, donc je vais le mettre dans un livre pour que ça serve. Après, quand j'ai commencé à faire ce Tour de France, je me suis dit, mais idée de génie, je parle de gamins qui sont enfermés dans un bistrot, je vais faire le Tour de France des bistrots. Non pas par plaisir, évidemment, mais par souci d'études, pour aller étudier la population des bistrots autour de la France. Ben non, parce que pourtant, Dieu sait si j'aime le vélo et si je déteste les bistrots, mais il fallait que je me déplace rapidement d'une ville à l'autre. Et puis en fait, j'ai découvert, et ça je n'avais pas prévu, qu'en fait, oui, j'ai vécu pendant 24 jours une sensation réelle de désinvolture absolue. C'est-à-dire que, alors je n'ai pas de téléphone portable, donc personne ne pouvait me joindre, on ne savait pas où j'étais. Je n'avais aucune contrainte, aucune obligation, rien à faire, aucune responsabilité. Je n'avais pas besoin de penser à ce que je ferais le lendemain, puisque je savais, quand j'étais à Arcachon, je savais que le lendemain, il fallait que je roule jusqu'à Rendail. Et que je trouve un bistrot et un restaurant. Et donc, en fait, pendant 24 jours, j'ai connu, mais vraiment, et ça n'aurait pas pu durer plus longtemps, mais ce que c'est que la désinvolture, oui, la légèreté, l'insouciance absolue et l'indépendance, la désinvolture, que mes jeunes moineaux ont cherché, qu'ils ont trouvé, je pense. Moi, ça a duré 24 jours, ça a duré un an ou deux. Ils ont pu vivre enfermés dans ce bistrot comme si l'extérieur n'existait pas, comme si personne ne leur demandait rien et qu'ils n'attendaient rien de personne. Et puis après, évidemment, ça s'est retourné contre eux. Ça doit être un peu comme le bonheur. C'est des choses qui ne durent pas et qu'on peut juste attraper de temps en temps. Mais je conseille le Tour de France par les bords. Si vous avez 24 jours devant vous, je conseille. Toutes les adresses sont dans le livre. Je donne les adresses des bars, des restaurants, des hôtels.
Qu'est-ce qui vous a fait préférer à choisir ce thème plus qu'un autre?
Je veux dire, ce thème, vous voulez dire.
L'histoire, la littérature, c'est extraordinaire, parce que quand on est historien, on voudrait bien être romancier et vice-versa, parce qu'on voudrait être tout un chacun qui lirait. Oui, tout un chacun qui lirait Madame Bovary voudrait revisiter l'époque pour savoir comment elles étaient vraiment les mères, etc. Mais comme tout écrivain ou quelqu'un qui veut écrire, plein de sujets grouillent dans sa tête. Puis plus on est poussé vers un thème plus qu'un autre, l'intérêt il est extraordinaire, mais je veux dire, j'aimerais bien savoir.
Alors ce thème, comme vous dites là en particulier, c'est un peu différent. D'abord, moi si j'écris des livres, presque tous mes livres depuis plus de 10 ans se passent dans les années 40-50 et j'ai besoin de recherches dans les archives, etc. parce que j'aime ça. Donc, et moi je suis un peu, alors, contrairement à ce que je suis pas du historien, on me dit souvent vous auriez fait un bon historien, un bon avocat, un bon policier. Et en fait, non, je suis un peu comme au Décathlon, c'est-à-dire que les gars au Décathlon, c'est pas le meilleur sur 100 mètres ou le meilleur au saut en hauteur, mais ils font un peu de tout, ils sont pas mauvais dans un peu tout. Et moi, ça me permet d'être comme historien amateur, avocat amateur, policier amateur, etc. Et puis sinon, pour ce thème-là en particulier, en fait, c'est un peu un hasard, c'est-à-dire que j'étais tombé sur l'histoire, sur les journaux, les articles de journaux qu'on a vus là tout à l'heure, j'étais tombé dessus en travaillant sur mon livre précédent. J'étais juste, en feuilletant de vieux journaux, j'étais tombé là-dessus. Et c'est le destin de cette fille qui m'intéressait, mais je ne pensais pas en écrire un livre. Je me disais simplement, pourquoi cette fille, jeune, intelligente, jolie, amoureuse, vedette de quartier Saint-Germain, pourquoi elle se le jette par la fenêtre à 20 ans? Mais c'était plus une curiosité personnelle. Et en fait, c'est en me renseignant sur elle que petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle appartenait à un groupe de jeunes gens, que ce groupe était dans un lieu bien déterminé, qu'ils étaient tous dans le même état parce qu'ils avaient 10 ans sous l'occupation. Et par exemple, les parents de Kaki étaient collabos, lui était carrément même milicien, c'était vraiment plus que collabo. Hein. Et sa copine Sarah, dans le bistrot, ses parents ont été, comme je disais tout à l'heure, déportés et assassinés. Et donc ces deux filles qui venaient de deux opposés de la guerre avaient, je ne sais pas si elles en parlaient ou pas, mais en tout cas étaient amies, avaient la même souffrance ou la même, elles étaient aussi désorientées, déboussolées et avec des envies de liberté, de se foutre de tout, mais en venant de deux. Et là je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être de quoi écrire. Écrire un livre. Mais au départ, c'était pas pour écrire un livre, c'était juste pour savoir. C'est quand je me suis rendu compte qu'elle symbolisait quelque chose, cette jeune femme, que je me suis dit que je pourrais peut-être travailler là-dessus.
Il y a une présence qui est là au début du livre et qui n'est plus là après, c'est Guy Debord quand même.
Ouais. Il est là, en fait, tout le temps. Beaucoup de lecteurs ou de journalistes, surtout, j'ai même reçu quelques lettres pas très sympathiques, me disent « Pourquoi vous détestez Guy Debord ?» Je ne déteste pas Guy Debord du tout. Je ne suis pas sûr que ça aurait été mon meilleur ami, mais en tout cas, je ne déteste pas. Mais là encore, comme je disais tout à l'heure, ça a à voir avec le fait que c'est un livre et que c'est littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, alors, c'est grâce à Guy Debord si j'ai pu trouver tous les témoignages sur ces jeunes gens, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Guy Debord avait 20 ans, il était dans ce café. Et en fait, c'est en les observant, en se mettant un peu à l'écart, en les observant, que petit à petit, ensuite, il a élaboré toutes ses théories ou thèses situationnistes. Avec la manière dont il vivait. Et donc, les gens qui aiment ou qui admirent ou qui suivent Guy Debord ont entretenu le souvenir de... Il y a un éditeur qui s'appelle Alia, par exemple, et qui a publié beaucoup de livres sur certains de ces jeunes gens dans le bar parce que ça, ils avaient nourri Guy Debord. Donc bref, je ne le déteste pas, puisque c'est grâce à lui que j'ai trouvé tout ça. Mais je voulais, dans le livre, le pousser du premier plan de la photo. Je voulais le mettre sur le côté et pour qu'on les voit, eux, derrière, parce que c'est toujours de lui qu'on parle, à juste titre, hein, d'ailleurs. Mais là, je voulais le mettre sur le côté, comme il était dans le bar, d'ailleurs, dans un coin du bar. Et pour ça, j'ai dû forcer un peu le trait et dire « il me saoule sa seule qualité, c'est d'être un poivreau mélancolique, ça, c'est touchant, mais sinon, il est pénible, il n'est pas gentil, etc. » C'est pour pas que l'arbre cache... la forêt des moineaux derrière. Mais j'ai rien contre lui. Et on s'en fout que j'ai quelque chose contre lui ou pas, de toute manière.
Je me levais aussi, vu que tu t'es levé. Bonjour. Moi, j'ai une question sur Pauline Dubuisson. Parce que le livre commence... Vous reparlez de Pauline, vous commencez à Dunkerque et vous reparlez de Pauline. Et moi, quand j'ai lu La Désinvolture, j'ai été assez frappée par les similarités entre Kaki et Pauline. Donc elles ont leurs parents collabos, c'est des mauvaises filles. Dans La Petite Femelle aussi, vous avez parlé des prisons pour femmes et tout ça. Et donc je voulais savoir si c'était un hasard ou si justement le fait de vous attacher autant à Kaki, c'était pas aussi un moyen de revenir à Pauline ou de pas quitter Pauline totalement.
Il doit y avoir de ça. Moi, si je n'y réfléchis pas, j'ai l'impression que c'est un hasard, parce que vraiment, je vous dis, je suis tombé par hasard. Donc, j'ai écrit La Petite Femelle en 2015, et c'est en faisant mes recherches pour mon livre de 2021 que je suis tombé sur les articles de journaux sur elle, donc il n'y a aucun lien. Après, je me rends compte de plus j'avance, plus je vieillis, plus j'écris, je me rends compte qu'en fait, ce qui peut paraître des hasards pour moi, n'en sont pas. C'est-à-dire que j'ai dû voir des dizaines de coupures de journaux de toutes sortes. Et si celle-là m'a interpellé, m'a attiré, c'est parce que je dois... Il y a une jeune femme qui a fait une... Je ne sais pas si c'est une thèse ou un mémoire, ou enfin, je ne sais pas quoi, sur... plusieurs de mes livres, dont La Petite Femelle et celui d'avant et quelques-uns après, et qui disait tout, alors qui remarquait que tous les personnages avaient quelque chose de féminin, et que même les garçons, et qu'en tout cas c'était tous des gens qui étaient intelligents, beaux, doués pour plein de choses, qui avaient toutes les cartes en main au départ, et qui à partir de 20 ans, entre 20 et 25 ans, un truc terrible leur tombe dessus. Et moi, très sincèrement, je ne m'étais jamais rendu compte. C'est-à-dire que ça m'a fait peur. Quand j'ai lu ça, au début, j'ai dit, mais non, n'importe quoi. Et j'ai regardé tous mes personnages, c'est tous pareil. Et là, je suis en train de travailler sur mon prochain livre. C'est une jeune femme qui a toutes les qualités et qui, à 24, 25 ans, blam, il lui tombe un truc dessus, un truc terrible, puisque c'est la mort. Et donc, en fait, voilà, moi, ça me paraît un hasard, la proximité entre Kaki et Pauline Dubuisson, et évidemment, ça n'en est un que pour mon cerveau conscient, c'est mon inconscient qui va vers... Il y a quelque chose qui les rapproche vraiment beaucoup. Et puis, c'est aussi deux jeunes femmes fortes, alors qu'elles ont été massacrées, hein, mais qui sont fortes, qui ne veulent pas se laisser faire, et qui veulent vivre comme elles l'entendent, etc. Donc, c'est ce vers quoi, à la fois dans ma vie et en tant qu'écrivain, j'ai envie d'aller.
Et vous mettez en exergue du livre « Toutes les vies sont solidaires ». C'est une phrase...
Ouais, c'est une phrase de Jean-Marie Apostolides qui m'a aussi aidé et qui est mort pendant l'écriture du livre. Et que, ouais, qui me touche beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des liens non seulement entre Pauline Dubuisson et Kaki, mais aussi entre Pauline Dubuisson et moi, entre Kaki et Véronique, et entre Véronique et moi, et vous, Raphaël. Moi, j'ai vraiment cette sensation, peut-être un peu caricaturale, hein, mais, ou je ne sais pas, ou un peu mièvre, mais j'ai cette sensation qu'on est oui, vraiment reliés. Toutes les vies sont solidaires les unes avec les autres. Ou sont liées ou solidaires ? Je ne sais plus, liées. J'ai une question pour Véronique. Comment ça va le travail ? On travaille sur quoi là, en ce moment, Véronique ?
Ben, j'essaye de trouver un sujet qui pourrait être dans votre prochain livre. Je continue à travailler beaucoup. Merci pour la question. Je continue à travailler bien sûr beaucoup sur la question des mauvaises filles. Et je vous conseille d'ailleurs une exposition qui a lieu en ce moment au BAL sur l'hystérie féminine et sur les phénomènes d'hystérie féminine. Et il va y avoir un certain nombre de tables rondes, conférences. Donc voilà, ça vaut la peine. Et puis... le BAL, c'est dans le 18e arrondissement. C'est une salle d'exposition photo, beaucoup, ouais. Et puis, l'histoire, ça amène parfois sur des chemins tortueux qui font qu'en ce moment, je travaille sur l'île de la Réunion et sur la question de l'enfance irrégulière en contexte colonial. Donc voilà, moi aussi, je vais quitter un peu les mauvaises filles pour aller voir du côté des mauvais garçons réunionnais.
Ah, là, c'est que des garçons.
Ouais, pour l'instant, je ne trouve pas beaucoup de filles. Je cherche, mais je ne trouve pas.
Y a-t-il une autre question ? Eh ben...
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, en exhumant cette partie de historique, vous avez voulu rendre hommage aussi à des... Tu vois, parce qu'on a parlé, par exemple, de certaines...
Oui.
Cette domination, cette frustration, cette... C'est des, d'un endroit qui était pour cette jeunesse, qui explose après des enfants du... Pas plus tard.
Non, plutôt. Ils sont tous nés entre 1931 et 1934.
Ouais. Et qui est c'était à peu près la même période, parce qu'on avait... C'est après une période noire...
Ouais, mais enfin, eux, ils n'ont pas retrouvé la joie. En fait, c'est ce que disait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire que donc, ils avaient entre 8 et 10, 11 ans, qui est un âge dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un âge extrêmement important, qui est ce qu'on appelle l'âge de raison. Et qui, nous, quand notre fils était petit en maternelle, il a un ami de 4 ans qui est mort dans un accident. Et donc, il y a un psychologue qui est venu dans la classe pour parler aux enfants et aux parents, et qui disait aux parents, vos enfants, ils ont 4 ans, ne se rendent pas compte. Ils sont tristes parce qu'ils vous voient tristes et puis parce qu'ils ne le voient plus. Mais il disait, il faudra qu'ils aient 7 ou 8 ans. C'est à ce moment-là que l'esprit assimile toutes ces choses-là, assimile à la fois le monde autour de lui et assimile la notion de mort, la notion de vraiment l'esprit est assez développé pour comprendre ça. Et donc, ces gamins... pile au moment où leur esprit s'ouvrait au monde et où vous pouvez comprendre ce qu'il y a autour d'eux et comprendre la douleur ou la souffrance, la peine, etc., c'est pile à ce moment-là, ils regardent autour d'eux et c'est l'occupation. Leurs parents meurent, leurs parents souffrent, leurs parents font des trucs bizarres. Paris est complètement écrasé. Et donc pour eux, ça a été... Et en fait, moi, je pense que ce qu'ils ont voulu... donc au sortir de la guerre, ils ont... 13 ans, 14 ans, 12 ans. Et ils ont voulu revivre ce moment qu'ils n'ont pas eu. C'est-à-dire, c'est le seul âge de désinvolture, on y revient là-dessus, dans toute la vie. C'est-à-dire qu'après, dès 18, 19 ans, ça y est, il y a des responsabilités, on est obligé de faire certaines choses. À 8, 10 ans, on est obligé de rien faire, à part ses devoirs éventuellement, mais on n'a pas besoin de se soucier du lendemain, on n'a pas besoin de... On n'attend rien de nous, quoi, voilà. Et je pense qu'ils ont voulu revivre ça, qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre pendant la guerre, et que donc, dès la fin des années 40, ils se sont enfermés dans ce bistrot, comme dans une cour de récré, inaccessible aux adultes, inaccessible à la société, et complètement imperméable. Et ils ont pu, pendant 2-3 ans, ce qui est d'ailleurs, c'est presque le nombre d'années qui leur a manqué. À partir de 53-54, ils sont tous partis plus ou moins de travers, où certains sont morts, d'autres ont dû, c'est presque aussi douloureux que de partir en capilotade. Certains ont dû s'intégrer dans la société, ce qu'ils ne voulaient vraiment pas, mais voilà. Mais ils ont eu, comme ça, ils ont quand même eu, avec un léger décalage de quelques années, entre 16 et 19-20 ans, ils ont eu quand même ces 3 années... d'insouciance et de légèreté.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Janada, merci beaucoup Véronique Blanchard, merci à Pierre Beau et merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Un très grand merci à Raphaël Léris également pour cette rencontre. Et à notre régie technique. Et juste pour vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est le 14 mars à la bibliothèque Marguerite Duras. Ça sera avec Ananda Devi. Donc vous êtes tous chaleureusement conviés.